Mardi 29 mai, bienvenue à l'aérospatial. Julie Gagné avec vous pour cette dernière édition de l'émission l'aérospatial. Bien entendu, il nous reste la manif en direct ce samedi 2 juin, qui sera la dernière émission officielle, en fait, de la saison 2011-2012, oui. J'ai en train de me dire, est-ce qu'on était en 2010? J'étais perdue un petit peu. Donc aujourd'hui, pour cette dernière émission, des rediffusions d'entrevues qu'on a faites à la manif en direct à partir de l'espace 400e samedi dernier. Donc on aura l'occasion de réécouter l'entrevue avec Mathieu Fecteau du collectif M&M qui présentait Superland Rover Pedalo à la Galerie Zara. Une entrevue qui a été, ma foi, assez drôle et assez sympathique. Tout comme celle que j'avais faite aussi avec Pierre Sasseville du duo Cook Sasseville qui venait nous présenter leur toute nouvelle monographie de Cook Sasseville à aujourd'hui. Et puis, à partir de d'hier, je crois, il y a le parcours déambulatoire Machination qui est présenté dans le coin de l'escalier du Faubourg et de la falaise Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, tout ça. Et j'avais reçu Suzy Genet et Anne-Marie Bouchard pour en parler. Et Raymond Poirier aussi viendra nous faire sa dernière revue de presse de l'année. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Mais très bien.
Un avant-goût d'une des dernières nouvelles?
Bien, notamment, en fait, on va parler du musée virtuel de Google. Point positif, point négatif.
Oh! Dossier à suivre. Et bien entendu, c'est pour la dernière fois, Simon Roy nous faisait ses sélections audio. Bonjour Simon.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Ben oui.
Qu'est-ce que tu nous as choisi pour terminer la saison?
Ben, je me suis fait plaisir cette semaine. C'est un groupe que j'adore. Il s'appelle les Lucky Dragons. C'est un duo composé de Luke Fishbeck puis Sarah Rara. Aussi toujours entouré de plein de collaborateurs. Donc, un duo vraiment intéressant. Ils ont déjà plus de 19 albums de publiés, tout en téléchargement gratuit. Ils ont aussi un petit projet à côté, une genre de société de dessin collaboratif, donc un genre de club, des gens dessinent ensemble sur les mêmes pages. Puis c'est assez intéressant, ils sont un peu abonnés. Quand ils font leur tournée, ça se passe souvent dans des musées, donc un peu partout dans le monde. Ils ont passé par le Centre Georges Pompidou, Institut d'art contemporain de Philadelphie, celui de Portland, même a été au Smithsonian. Ils ont passé aussi par le Royal Danish Academy of Fine Arts, donc un drôle de duo. Des performances assez intéressantes, souvent au niveau du sol. Donc, ils font se spécialisent un peu dans le collage audio.
Okay.
Puis, ils inventent des fois même leurs propres instruments. Ils ont inventé un genre de synthétiseur qui fonctionne avec les gens qui se touchent. Donc, le différent toucher, différents nombres de personnes, ça produit des sons différents. Donc, assez expérimental. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est très accessible. C'est un peu pop sur les bords. C'est hautement expérimental, mais jamais aliénant. Donc, j'ai choisi 4 pièces de leur album Earthbreaker. C'est un album qui est publié sous l'étiquette 555 Records, mais c'est distribué par la Free Music Archive. Donc, 4 pièces pour ce soir. L'album, c'est Dark Falcon.
C'est ça, je me dis, est-ce que c'est moi qui ai mal noté? Je vais faire confiance à Simon.
Non, c'est moi qui ai perdu dans mes notes. Donc, l'album s'intitule Dark Falcon. La première pièce, c'est Heartbreaker. La seconde, Chercher le dragon. Puis ensuite, après la pause, ça va être All These Warriors Between Us. Puis la dernière pièce, c'est la pièce Mercy.
Eh bien, Simon Roy, merci beaucoup.
Ben merci.
Tu poursuis, toi, à Web Music, est-ce que tu poursuis cet été?
Oui, j'arrête pas, je poursuis, j'aime trop ça.
Bon, donc les dimanches à compter de 20h, vous aurez l'occasion d'écouter les choix de Simon à Web Music. Et on s'en va tout de suite en pause audio, on écoute Heartbreaker sur les ondes de CKRL. Thank you.
has no love, guilt in their heart. I love no one, I love thee, whatever thou art. Thou hast called me thy angel in moments of bliss, and thy angel will be in the horrors of this. The furnace on shrinking, thy steps to pursue, then shield me and save me.
On vient d'entendre un extrait de la pièce Heartbreaker de Lucky Dragons, et je dois dire, comme Simon Roy, c'est pop, mais c'est quand même et expérimental, mais c'est très accessible, c'est très plaisant et rafraîchissant cette journée un peu grise et morne. Et pour s'assurer qu'elle le sera moins, en tout cas je l'espère, je cède la parole à Raymond Poirier, qui sait toujours nous mettre de bonne humeur avec son ton enjoué. Et c'est mauvais, c'est parfois c'est mauvaise nouvelle, mais bon.
On va essayer de garder le ton enjoué à tout le moins pour cette dernière intervention dans le cadre de la saison 2011-2012 de l'Aérospatiale. Musée virtuel de Google, c'est ce que je t'ai annoncé d'entrée de jeu. En fait, c'est quelques questions autour de ça. C'est Rue 89 qui a publié un article là-dessus qui est en lien, qui sera en ligne tout à l'heure d'ailleurs sur l'aérospatiale.wordpress.com. Un article intéressant où on a invité des passionnés d'art de différents backgrounds, si on permet l'anglicisme, à aller visiter le musée virtuel de Google pour voir, dans le fond, est-ce que ça remplace un vrai musée? Si oui, dans quel contexte et comment? Et les réactions sont assez intéressantes de manière générale, pas surprenantes, cela dit. Un constat, le principal constat pour les amateurs d'art, pour ceux qui aiment les musées,
ça remplace pas.
Il y a l'ambiance, il y a le contact qui est plus direct avec l'œuvre d'art. Les gens disaient, ben regardez, on n'a pas de chance d'avoir un syndrome de Stendhal en avant d'une œuvre numérique, donc il manque de chair. On dit notamment, et on ouvre les guillemets, la numérisation c'est bien pour les personnes immobilisées, mais pour les autres c'est comme regarder un porno plutôt que d'avoir une vraie relation sexuelle. Manque la odeur, la sueur, la bave. C'est de l'informatique, de l'information. C'est pas une vraie expérience.
C'est vrai, mais moi, je suis d'accord. Je veux dire, je dis pas, je suis pas allée sur le musée Google, mais j'ai vu des œuvres sur Internet. J'ai même vu, bon, tu sais, des fois, des détails, des craquelures, des saletés, mais il y a rien que, quand même qui remplace l'émotion qu'on peut éprouver devant l'original. Ne serait-ce que le fait d'être devant l'original, qu'on connaît, puis de le voir, puis de voir tous ces empattements, les textures ou encore le côté lisse, c'est...
Et à la limite, les côtés positifs, Julie, étaient surtout justement sur l'idée d'avant-goût ou l'idée de l'exploration de l'œuvre. Donc, pour quelqu'un qui connaît déjà une œuvre, mais qui veut en voir les détails, là, ça devient une expérience intéressante. Ce que certains disaient, c'est il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas de gardien pour nous empêcher d'approcher. On peut faire essentiellement ce qu'on veut avec l'œuvre. On peut la scruter jusqu'au moindre détail, voir le blanc de l'œil de ce personnage, voir les craquelures de la peinture. Donc, pour ceux qui veulent explorer ces œuvres-là, autant que pour les étudiants en art, eh bien là, ça devient un outil qui devient beaucoup plus intéressant. Ce qu'on dit, c'est que ça dépasse, dans le fond, l'idée du livre, de la reproduction dans un livre, mais d'une œuvre, dans la mesure où il y a une interaction qui est beaucoup plus grande et dans la mesure où on n'est pas limité à la simple page. Donc ça, c'est le côté beaucoup plus positif, donc pour l'étude, pour l'exploration.
Ça va nettement au-delà de ce que la vue peut percevoir aussi dans un livre ou avec l'œuvre réelle.
En conclusion, je garderai cette citation où on dit, par contre, là pour l'instant, c'est un peu comme si on filmait des livres. Plutôt que de rendre virtuels les tableaux existants, pourquoi ne pas créer un musée d'œuvres virtuelles? Alors ça, c'est la sous-question. Donc, est-ce qu'on est aux premières phases un peu de ce lien entre les musées et la sphère virtuelle? Sûrement. Mais d'ici là, ben, on voit un peu déjà un petit article qui brasse les pour et les contre et qui suscite quand même pas mal de réflexions, dans le fond.
Ben oui, effectivement.
Et puisqu'on parle de musée virtuel, je suis tombé là-dessus. En fait, il y a un premier commissariat en ligne du laboratoire NT2 de l'UQAM. En fait, une première exposition en ligne, justement. Ça s'appelle l'abécédaire du web. C'est une exploration et une exposition virtuelle qui propose un parcours en 26 rubriques ou thématiques qui mettent en valeur les enjeux esthétiques, théoriques et critiques de la création hyper médiatique. Alors, si vous voulez aller voir de quoi ça retourne, eh ben, c'est nt2.ucam.ca. Donc, voilà un exemple d'exposition en ligne, justement.
Ben
la suite
oui.
des idées.
Ben hein, oui, hein. Je veux dire, mon pari était conséquent.
Complètement. On reste au Québec. Cette fois-ci, des nouvelles du musée d'art de Joliette qui sont transmises via la presse. En fait, simplement qu'ils ont changé de direction. Et la nouvelle directrice générale donc de ce musée-là, responsable de ce musée-là, c'est Annie Gauthier. Certains la connaissent peut-être. Elle est diplômée en arts visuels. Elle a travaillé en art. Elle était membre notamment du collectif Women with Kitchen Appliances pendant 13 ans. Elle a un parcours assez particulier quand on parcourt justement cet article. Et semble-t-il qu'elle veut justement poursuivre son exploration dans la mise en valeur des œuvres des autres. Et elle est fortement attachée, dit-on, à l'histoire et à la mémoire. Donc, on veut poursuivre une tradition de collection du musée qui possède quand même 8700 œuvres d'art canadien. Canadien européen contemporain de Rodin, Riopelle, Bordua, Azias, Le Duc, donc quand même. Et ce qu'on dit, c'est qu'on veut préserver la richesse, mais aussi laisser plus de place aux jeunes artistes pour bonifier l'expérience muséale, mais au profit des artistes et pas seulement au profit des visiteurs.
C'est une bonne chose.
C'est une bonne chose. Ce sera à voir si, effectivement, quelles seront la nature des changements qu'elle apportera à la tête de ce musée. Deux petites vites en terminant. Premièrement, j'ai juste trouvé l'idée intéressante. Si on va à l'aéroport de Toulouse, sais-tu qu'à cet aéroport-là, il n'y a pas une, il n'y a pas deux, mais il y a trois galeries d'art à l'intérieur de l'aéroport.
Ah ouais, des vraies ou
des vraies galeries d'art?
Des galeries un peu.
Non, des vraies. En fait, la façon que les gens de l'aéroport ont décidé de procéder, c'est de s'associer avec des galeries d'art reconnues dans la région et d'aller chercher des éléments des collections qui sont diffusées dans ces galeries-là, dans les centres d'artistes, et de leur offrir un espace à l'intérieur de l'aéroport. Donc, pour bonifier un peu le temps de transit. Donc, c'est trois lounges qu'on a décidé de donner à l'art contemporain de manière générale, des artistes évidemment qu'on essaie d'aller chercher de la région de Toulouse, mais je trouvais l'idée intéressante, s'il y en a qui veulent la récupérer à Québec, des gares, on a des aéroports.
Tu sais qu'avec tous les retards, hein, moi je sais que la dernière fois que j'ai pris l'avion à Québec, ça a pris une heure et demie facilement de retard à cause d'une tempête.
On va avoir une petite galerie d'art, là. Pourquoi
pas? Ouais, c'est pas pire.
Et en terminant, on termine sur une note plus triste. Photographe, éditrice, conservatrice Denise Guérin-Lajoie, ancienne directrice également de la revue OVO, le plus célèbre magazine d'art dédié à la photographie au Québec, est décédée. Née à Montréal en juin 1929, elle est décédée chez elle la semaine dernière. Elle avait 82 ans. Un travail qui a été présenté dans plusieurs expositions individuelles aux États-Unis, au Canada et au Portugal.
Donc, on la salue.
Voilà.
Raymond Poirier, merci.
Ça me fait plaisir.
Vendredi, c'est ta dernière de la vie en BD.
Oui, on terminera avec une petite ode à la lecture estivale.
Oh! Donc, on termine sur une note légère, là, carrément. Ben, merci à toi pour ta participation cette
année. Ça me fait plaisir.
On s'en va en pause audio. On écoute « Chercher le dragon ». C'était un extrait de la pièce « Chercher le dragon » du duo Lucky Dragons. Donc, c'était nommé à juste titre et on s'en va tout de suite en rediffusion d'une entrevue portant sur l'exposition à Zara. Et je me tourne à l'instant vers Mathieu Fecteau du collectif M&M. Bonjour.
Bonjour Julie, ça va bien?
Ça va bien toi?
Ça va très bien, merci.
Tu formes le collectif M&M, c'est votre nom de groupe,
oui,
avec Mathieu Gauthier.
Absolument.
En ce moment, vous présentez Super Land Rover Pédalo.
Oui, absolument.
À la galerie Tzara. Peux-tu nous parler un peu, peut-être nous introduire à cet univers-là? Déjà, le titre nous fait sourire.
Ben, en fait, moi et Mathieu Gauthier, on travaille ensemble depuis toujours. C'est ça qui est écrit sur notre affiche. C'est un peu vrai, là. On a toujours bisouné ensemble. On travaille ensemble quand j'ai besoin d'aide et m'aide. On a chacun notre production indépendante, mais on a une énergie de groupe, je pense, qui est le fun. Puis, quand on a des listes de choses à faire dans des emails, là, il y a toujours maintenant une vidéo d'automobile qui fait du modding. Puis, je pense qu'on a voulu, avec cette expo-là, transmettre un peu ça. Fait qu'on a décidé de se lancer dans un projet qui est une machine, comme les vieux disaient, des tours de machine.
Ben oui, des anciens termes pour les voitures.
Tout à fait. Ben, on a décidé de s'en faire une machine. On s'est fait un Land Rover, les vieux Jeep là, qui sont faits tout de suite après la guerre. Donc, nous, on a fait un modèle de ça en bois, fabriqué maison avec beaucoup de matériaux récupérés.
Oui, parce que c'est des matériaux que toi, tu utilises pas mal, là, le bois.
Oui, bois, métal. On a beaucoup de matériaux récupérés aussi. Là, on va dans des cours à scrap, on ramasse beaucoup de choses. Donc là, on a fabriqué un Land Rover qui fonctionne. Parce que l'idée, c'était vraiment de pouvoir se promener avec, puis d'embarquer du monde, puis de pouvoir s'amuser avec, là, de se fabriquer notre jouet, puis d'aller jouer avec.
Mais il fonctionne. Il y a un moteur. Parce que là, il y a un moteur à l'intérieur en ce moment dans la galerie, mais vous le poussiez, vous pédaliez.
C'est à bras et à pédale. Donc, on a fait des sorties publiques avec. Pendant la première fin de semaine là, de l'exposition de la Manif d'art ici, on était à l'extérieur, puis on faisait faire des tours aux gens. Puis c'était nous qui poussaient. Donc, on était derrière, puis on poussait les gens. Puis il y avait beaucoup d'enfants qui trippaient. Puis, donc, c'était la commande vocale. Donc, on faisait bip, 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 puis ça reculait. C'était très efficace quand même comme principe.
Ah oui, OK, le bip, 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 en poussant, puis en tirant, finalement.
Tout à fait.
Vous l'avez promené, je pense, sur le bord de la rivière Saint-Charles.
On s'est promené quand même pas mal avec. C'était bien plaisant d'amener de la sculpture un peu partout. Tout comme ça, puis encore une fois, là, c'était le fun, les gens s'attendaient pas à ça, là. Quelqu'un est sur la piste cyclable avec ses enfants, puis tombe là-dessus, puis est confronté à quelque chose qui sort de l'ordinaire, puis c'était le fun d'avoir des contacts avec les gens, avec cette sculpture-là.
Puis les gens devaient quand même assez bien réagir, les gens devaient rire, ça devait les mettre de bonne humeur.
Absolument, absolument, puis les gens en plus pouvaient embarquer, puis faire un tour, fait que c'était un contact, c'est sûr que c'était un contact privilégié avec notre public, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de pousser du monde avec sa sculpture, donc nous, on était très heureux de faire ça.
Puis en même temps, il y a un côté très performatif à la chose aussi, là, qui précède un peu l'exposition finale, où là, le mouvement est plus en cours.
Absolument, parce qu'Adzara, c'est une espèce de documentation de ces sorties publiques-là. Puis, on a fait un décor aussi en plywood, donc c'est une centaine d'éléments là en plywood qui vont d'à peu près 8 pouces à 2 pieds, là, différents éléments de paysage, puis les gens peuvent s'asseoir à l'intérieur du Land Rover puis contempler un peu comme s'ils étaient en train de se promener dans ce paysage-là.
Oui, puis il y a moyen de taponner les pitons aussi.
Oui, absolument. Il y a l'autoradio, il y a le devant, on peut jouer avec, oui.
L'idée de pédalo dans le Super Land Rover pédalo, elle vient d'où? Parce que je sais, j'ai regardé sur votre Facebook aussi, vous avez documenté Super Land Rover amphibie, après ça, c'est devenu pédalo. C'est quoi l'idée?
Tout à fait. Donc, l'idée, c'est qu'on a des modules qui peuvent s'ajouter aux roues, puis c'est des modules qui sont récupérés de pédalo, puis on a des flotteurs en métal qui sont récupérés d'autres projets, puis on peut transformer le véhicule en véhicule amphibie. Qu'on veut vraiment faire de cette sculpture-là un outil de défrichage culturel. Donc, pouvoir aller vraiment partout avec. Puis l'exposition est un peu sur cette thématique-là aussi, là, on a la musique, quand on l'écoute, c'est de la musique du monde, donc ça donne vraiment l'impression qu'on est en Afrique et qu'on est en train de se promener dans un Land Rover en bois.
Ben oui, mais en fait, on dirait que vous nous proposez un safari un petit peu absurde, tu sais, dans lequel il y a des villes, il y a des manifestants, d'ailleurs, vous faites liens avec l'actualité. Il y a un dinosaure, je me suis dit, est-ce que le dinosaure, c'est un retour dans le temps ou c'est une évocation du Madrid?
Ben, il n'y a pas encore des dinosaures en sud de l'Espagne part, je sais pas trop.
Ah ben là, c'est toi qui me prends par surprise,
peut-être que je me trompe, je sais pas.
OK, fait que c'est ni référence au passé, ni référence au
Madrid. Non, c'est vraiment l'idée de se promener partout, puis d'être un aventurier. Puis quand t'es un aventurier, ben il y a des dinosaures, il y a un peu de tout.
Puis il y a des panneaux réclames aussi, hein, comme on voit. Moi, c'est ce que j'ai perçu le bord de l'autoroute. Là, vous faites votre propre publicité.
C'est un peu l'idée de documenter nos sorties. Bon, on a décidé de documenter ça d'une façon originale. Donc, c'est un peu comme des panneaux publicitaires de nos sorties. Puis on en a profité pour intégrer des slogans. Là, jouer avec ça aussi. Puis sont retravaillés à l'aquarelle. Donc, c'est des photos travaillées par ordinateur qui ont ensuite été retravaillées à l'aquarelle. Donc, c'est exposé aussi. Donc, il y a différents éléments dans l'exposition. Il y a le Land Rover, l'élément principal qui a sorti. Puis on voit vraiment les traces de ses sorties aussi. Là, il est quand même bien déméché. C'est le fun. Il a vécu sa vie. Il y a les éléments de décor, puis il y a les panneaux publicitaires.
Voyons, je suis encore en panne
aujourd'hui. Il y a des éléments aussi des produits dérivés parce qu'on est issus des métiers d'art, donc on a amusé aussi de faire des modèles réduits et des choses comme ça.
Oui, c'est ça. Donc il y a moyen d'acheter des éléments qui sont plus près de la vitrine, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, absolument.
L'idée du plywood, l'idée de mettre tout ce décor-là en plywood, donc en 2D, finalement, est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé?
Ben, on travaille beaucoup en atelier. Nous autres, c'est vraiment notre gros plaisir. C'est pas notre seul plaisir, parce qu'avec le public, c'est le fun aussi. Mais on a un gros plaisir en atelier de ramasser nos rebuts puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc là, on ramassait nos morceaux, nos retailles, puis on les retravaillait, on essayait de faire des formes avec. Donc on s'est mis à en faire, on en a fait énormément. Puis donc ensuite de ça, on les a présentés là.
Tout à l'heure, je parlais des manifestants.
Oui.
C'était important pour vous de faire un clin d'œil, justement,
oui, je pense
à l'actualité?
Oui, je pense que oui. Je pense que ça s'imposait. Puis c'est une petite façon de s'impliquer aussi.
C'est ça. Pas trop, mais quand même qui fait allusion. Mais au final, bon, il y a ce petit côté politique-là. Mais moi, ce que j'ai senti en regardant l'exposition, c'est que vous vous prenez vraiment pas au sérieux. Hein? Vous avez vraiment du plaisir à faire ça.
On a beaucoup de plaisir, mais c'est un projet autoproduit. Est-ce que autoproduit, c'est un véhicule?
Ouais.
Donc, on a décidé, puis c'est notre première vraie exposition en tant que collectif MEM ici à Québec. On a déjà fait des projets, là, au Lac-Simon, à Victoriaville aussi, ensemble. Mais là, c'était vraiment un contexte particulier, puis on a décidé de vraiment jouer sur notre énergie de groupe, là, puis de cette espèce de folie, là, je pense qu'on peut avoir à deux.
Attends. Jean-Pierre?
Ouais, moi, j'ai eu l'occasion de faire un projet avec les deux Mathieu dans le cadre de la Nuit des Sans-Abri.
Tout à fait.
Où vous aviez à prendre des bouts de carton.
Ouais.
Puis il y avait des matériaux très sommaires.
Absolument.
Faire une maison, un abri. Puis moi, je les ai vus évoluer, les deux Mathieu. Puis c'était vraiment spectaculaire de les voir aller. Ils savaient où est-ce qu'ils s'en allaient. Puis ils ont réalisé une maison qui était vraiment la plus belle de tous les sans-abri.
Ben, ça touchait vraiment notre pratique habituelle. Ouais. Les matériaux récupérés devant public, création dans une sous-pression, je dirais, là, dans un contexte très restreint. Fait que c'était vraiment un très beau projet, ça, que Folie Culture avait participé. Là, c'était pas mal la fin.
Fanny?
Moi, ce que je trouve intéressant dans votre travail, c'est que vous êtes toujours entre la réalité et la fiction. Vous avez toujours un pas dans la réalité avec les matériaux récupérés, avec justement, on reproduit un objet. C'est un ready-made, mais qui est complètement retransformé, réapproprié, puis bouleversé. Là. Il est hyper humain aussi, ce ready-made-là. Mmh. Puis à la fois, vous jouez avec la fiction dans le sens du safari. Je vais chercher l'imaginaire aussi. Un imaginaire qui nous fait voyager.
Absolument. L'idée du plaisir, c'est effectivement, on a énormément de plaisir, mais il y a beaucoup de travail derrière. Il y a beaucoup de travail, puis dans le travail, ben justement, on sent les traces, on sent les différentes étapes, puis le côté humain là-dedans. Puis le côté humain aussi, quand on le présente avec le monde, quand les enfants embarquent dedans, là, je pense qu'on discute avec eux autres, puis on est ouvert à leurs commentaires, là.
Ça se peut
que la prochaine œuvre, ce soit le petit enfant qui nous a influencé à la faire.
J'imagine qu'au vernissage aussi, parce que là, vous l'avez promené, mais au vernissage, il y avait comme une autre expérience. Là, vous avez fait un événement assez convivial. Je pense que vous avez
Absolument.
Servi un ragoût de kangourou ou quelque chose comme ça.
Dans l'idée de safari, donc on avait du kangourou, on avait un super beau décor aussi, on avait des noix de coco et tout. Puis il y avait la musique qui jouait du Land Rover, puis on faisait faire des petits tours à l'intérieur. Là, malheureusement, aujourd'hui, puis jusqu'à la fin de l'exposition, le Land Rover, on l'a mis sur des petit tréteau parce qu'on peut pas se déplacer à l'intérieur dedans parce que c'est quand même à l'intérieur d'une galerie pour se promener en auto.
Oui, puis il y a toute l'installation aussi.
Absolument.
Donc
malheureusement, là on peut pas, mais lors du vernissage, on invitait les gens à embarquer dedans puis on faisait faire des petits tours à l'intérieur.
Puis moi, j'ai trouvé ça drôle aussi parce que en toute bonne journaliste, j'arrive dans une galerie puis là, je demande le communiqué. Pour avoir une idée, souvent, je regarde là, puis après ça, je veux la démarche de l'artiste. Vous, vous en avez pas fait, en fait. Votre communiqué, c'est votre recette.
C'est notre recette de kangourou, tout à fait. Mais je pense que ça pique vraiment la curiosité, puis ça donne vraiment le goût aux journalistes d'y aller. Puis en plus de ça, du kangourou, c'est rare qu'on en mange, donc je pense que les journalistes... Je pense que t'as une bonne idée, là.
Est-ce qu'il y avait cette idée aussi de déjouer des fois des journalistes qui vont juste lire le communiqué puis retransmettre le communiqué?
Oui, je voudrais pas insulter personne, mais c'est sûr que c'est de quoi qu'on voit quand même assez souvent, là, des retranscriptions de communiqués de presse. Donc, nous autres, on a décidé de c'est l'autrement. Mais par contre, le communiqué de presse était très beau. Il y avait une mise en page.
Monsieur Petit
avait fait un super beau, super belle affiche, là, vectorielle avec des logos puis tout. C'est très beau. Fond plywood encore, là, dans l'idée du bois, là.
Vraiment représentatif. positif, finalement, de votre installation?
Je pense que oui. Je pense que oui.
Peut-être une dernière question. En fait, il y a plus ou moins rapport avec le Super Land Rover Pedalo. Vous étiez vraiment dans le jeu, vous, pour le mois de mai, parce que vous avez exposé aussi au Festival de musique actuelle de
Victoriaville. Oui, oui, oui. On a eu beaucoup de projets qui sont venus en même temps. Une chance, on travaille à deux, donc ça permet que ça avance mieux. Sinon, ça aurait été vraiment un peu paniquant. Donc, on a eu Victoriaville pour le Festival de musique actuelle. Donc, on avait une installation extérieure, une installation sonore, cette fois, encore avec des matériaux récupérés, des matériaux aussi qui provenaient de la place. On a fait affaire avec beaucoup de gens des centres de tri là-bas. On avait une installation intérieure aussi. Là, on a à la Galerie de Zara. Puis, prochainement, donc j'en profite
pour faire la pub
aussi.
Ben oui, c'est ça, j'allais dire, à venir, qu'est-ce qui s'en vient?
On a un projet à Deschambault pour une exposition qui s'appelle « Que restera-t-il de nous? » Ce qu'il restera de nous, qui rejoint un paquet d'artistes de la région de Portneuf. Puis, on a ensuite de ça aussi un autre projet qui est avec une autre personne, donc Marie-Claude Heinz, qui se joint à nous pour former le collectif 3M.
Qui a étudié aussi en
métier d'art. Oui, absolument. Donc, c'est une amie de longue date qui travaille très bien. Donc, elle se joint à nous pour un autre projet qui travaille encore sur la thématique du véhicule. Cette fois, ça va être encore plus aquatique. Donc, on se fait une espèce de bateau de pirate pour on fait le tour du Québec avec. Donc, ça, il y a plus de détails à venir. Là, ça va être pendant l'été. Un projet bien trippant qui va évoluer très différemment, donc je pense que ça va être bien, bien intéressant.
Ben, j'imagine que vous allez nous tenir informés de toute façon de toutes ces belles choses-là.
Absolument.
Ben, super, Mathieu Fecto, merci beaucoup.
Merci.
Donc, le Super Land Rover Pedalo du collectif MEM, Mathieu Fecto et Mathieu Gauthier, présenté à la Galerie de Sarah jusqu'à la fin de la manif.
Lundi, le 4 juin, dès 15h30, soyez aux premières loges du lancement de la nouvelle programmation d'été 2012 de CKRL. Animation, sourire et crème protection Extrême 89 seront au rendez-vous. Venez rencontrer vos animateurs favoris et profitez-en pour déguster la nouvelle bière, la CKRL. Le lancement de la programmation estivale de CKRL au Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, le 4 juin de 15h30.
C'est parti.
Ma boîte à cassettes.
La boîte à cassettes.
Ta boîte à cassettes.
Boîte à cassettes.
Boîte à cassettes.
Ma boîte à cassettes.
Ma boîte à cassettes.
C'est Robert Charlebois. J'aimerais bien entendre ta boîte à cassettes. Ça me changerait de la boîte à chansons.
Ma boîte à cassettes. Avec Jean-Philippe Deschênes, les mardis à 20h30.
Boîte à cassettes.
De Allman Brothers à Frank Zappa, c'est le rock de A à Z des années 60 à aujourd'hui. Concentré sur une seule fréquence. Tous les mardis dès 22h avec François Thériault et Martin Anger.
Vous désirez devenir membre du 89.1? C'est simple. Allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Pour seulement 25$, soutenez CKRL financièrement. Votre carte est valide un an, peu importe la date d'achat.
CKRL. Québec.
CKRL.
Québec.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard.
26 ans de spectacle.
26 ans d'exposition.
26 ans à recycler.
26 ans de produits du Québec.
26 ans de bonne musique.
26 ans de party.
26 ans à s'impliquer dans le quartier.
26 ans d'entraide.
26 ans à changer le monde.
26 ans de Limoilou libre.
Souvent imité, mais le bal, c'est le bal. 1049 3e Avenue Limoilou. Lebaldulézard.com.
Il est 18h précisément, on entame la deuxième et dernière demi-heure de l'aérospatiale de cette dernière émission de L'An de Dieu 2012. Bien entendu, il nous reste une émission de la Manif en direct qui aura lieu samedi à l'espace 400e à compter de 11h. Et puis, ben, si vous avez manqué des émissions cette année, que vous avez envie de les réécouter, des entrevues ou autres, ben, vous pouvez toujours aller sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Toutes les émissions sont disponibles en balado-diffusion. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook et aimer la page pour être tenu au courant des quelques actualités qu'il y aura en art visuel au courant de l'été. Sur ce, on s'en va en rediffusion. On écoute l'entrevue que j'avais réalisée avec Pierre Sasseville. Hier soir, ici, à l'espace 400e, c'était le lancement de la monographie de Cook Sasseville. Avec nous pour en parler, Pierre Sasseville, bonjour.
Bonjour Julie, bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va super bien, merci.
Hier, vous avez lancé votre monographie qui porte un titre, moi, qui me fait vraiment rire, de Cook Sasseville à aujourd'hui. Ben, d'où est venue l'idée, hein?
En fait, c'est un titre qu'on avait en tête depuis longtemps, qui à l'origine n'était pas censé être utilisé pour un projet de publication, mais plutôt pour une exposition qui était une espèce d'arnaque sur une rétrospective historique de qui est Cook Sasseville. Mais cette exposition-là, pour différentes raisons, n'a jamais vu le jour. Mais le titre nous est resté en tête, puis on a décidé de le réutiliser parce qu'on trouve que ça fonctionne assez bien avec notre image projetée, disons, donc une espèce de surarrogance ou une prétention qui en devient dérisoire, parce qu'en soi, quand on décompose de Cook Sasseville à aujourd'hui, ça veut strictement rien dire, sinon une prétention incroyable.
Hein, puis en même temps, ça s'inscrit dans l'idée de Cook Sasseville, demi-dieu.
C'est là, ça. Ben,
comme si vous cultiviez un culte de la personnalité très, très fort.
Ben, c'est le jeu aussi du mythe de l'artiste. Donc, dans beaucoup de nos projets, ça revient cette espèce d'idée de l'artiste créateur, l'artiste qui est au-dessus des masses. Cette espèce d'idée que l'artiste fait pas partie de la société, mais est au-dessus de celle-ci. T'sais. Donc, on trouvait ça amusant d'en rajouter une couche, finalement.
Puis vous en rajoutez une couche aussi avec la page couverture de votre monographie, hein, où là, vous êtes fait faire un portrait, ma foi, assez...
Oui, assez local. Oui. En fait, c'est une mise en scène là où Jean-François et moi, on est posés en pyjama de satin dans un entrepôt rempli de caisses avec des centaines de milliers de dollars à nos pieds. Donc, ça suggère en fait que l'entrepôt serait... les caisses seraient pleines d'argent. Hein, donc, pas pleines d'installations de sculptures, mais bien pleines d'argent. Puis ça ramène l'idée, disons, le sujet qui est des fois un petit peu tabou dans notre société, du rapport entre l'artiste et l'argent.
Ouais.
Les subventions, les deniers publics versus la production artistique. Donc, toutes ces idées-là, on trouvait ça intéressantes parce qu'on les ramenait dans ce tableau-là. Puis, l'idée ensuite nous est venue de faire une espèce de mise en abîme, donc de se retrouver Jean-François et moi, dans une position où on accroche ce tableau-là, mais habillé de façon tout à fait normale, finalement, un peu comme des techniciens muséaux.
Ouais, dans les musées, c'est ça.
Exactement, avec des gants blancs, où on installe, en fait, le fantasme de nous-mêmes ou la projection qu'on fait de nous-mêmes sur un mur de galerie. Donc, c'était le concept de la couverture, puis on a produit cette œuvre-là spécifiquement pour
aller... mais ça a dû quand même, hein, le portrait, là, est d'un réalisme assez incomparable. Est-ce qu'un artiste qui fait comme des portraits de ce genre-là?
Oui, ben on a travaillé avec une artiste peintre qui est aussi technicienne pour différents artistes peintres, qui est Florence April-Borja, qui a une technique hallucinante.
Oui.
Là, donc, qui a travaillé là, quelques centaines d'heures à notre atelier à nous tirer le portrait. C'était assez particulier de travailler sur nos projets pendant que quelqu'un faisait cette espèce de portrait qui est d'une prétention absolue.
Jean-Pierre, tu voulais commenter?
Oui, ben c'est ce que j'allais dire. Il y avait une sorte de mise en abîme aussi pendant que la toile était réalisée, parce que vous étiez en train de travailler sur d'autres projets pendant que la peintre était chez vous en train de vous peindre.
Ben, c'est toujours amusant, puis ça reflète assez bien notre façon de travailler, c'est-à-dire que ce projet-là, on l'a eu en tête, puis on a développé le concept peut-être au courant de l'automne. quand on arrive au moment de réalisation, nous, on a déjà la tête ailleurs, puis le tableau, lui, se faisait directement parce que, bon, on a fourni l'atelier, on a fourni l'espace, on a... Donc, c'est ça, oui. Même dans la production, il y a cette espèce d'effet de mise en abîme, moi, qui est amusante.
Et là, on parle de la page couverture, là, mais il y a bien entendu bien d'autres choses, plusieurs autres pages à l'intérieur. Comment, l'idée de monographie, c'est vous qui l'avez eue, c'est
votre galerie? À l'origine, oui, c'est nous. On travaille sur ce projet-là depuis 2 ans maintenant. Non, en fait, à l'origine, ce qu'on souhaitait, c'était que la monographie sorte pour notre 10e anniversaire là, de partenariat, disons. Finalement, pour différentes raisons, là, ça s'est échelonné sur un peu plus longtemps. Puis on est content de ça parce que les projets qu'on a réalisés entre la 10e et la 12e année, ben, ça valait la peine qu'ils soient soulignés dans ce catalogue-là. Puis ça nous a aussi permis d'aller chercher Anne-Marie Bouchard.
Oui, c'est ça, parce que vous avez confié la direction.
À qui on a confié la direction de production, ça s'est bien passé. Puis elle signe aussi 2 textes à l'intérieur du livre, un essai critique sur notre travail ainsi qu'un essai sur notre travail en art public. Donc c'est ça, on a pris le temps de bien s'entourer de collaborateurs, donc Manifestation internationale d'art de Québec, Première Ovation, le Conseil des arts et lettres du Québec et notre galerie à Montréal Armure qui a assuré le travail d'édition. Donc c'est ça, je dirais que d'avoir eu plus de temps, ça nous a permis de peaufiner un peu le travail puis d'arriver avec un ouvrage dont on est très très fiers aujourd'hui.
Ben oui, il y a vraiment une grande qualité là, la reliure, la qualité des photos, la qualité du papier également là, vous arrivez vraiment avec un bel objet.
Hein? Oui, oui, ben c'était important pour nous d'arriver avec un catalogue qui justement c'est un peu dans l'esprit d'une espèce de bible autobiographique. Là.
Oui, c'est donc, ça. D'ailleurs, il y a, comment il s'appelle, Réal Olivier Lantier et François Saint-Jacques qui disent c'est une quasi-bible pour les demi-dieux de l'art contemporain.
Oui, ben ça nous amusait d'arriver avec un objet de grande qualité, d'essayer de mettre toute notre énergie pour produire un objet qui est à l'image de nos projets aussi. Donc, de pas tourner tous les coins ronds puis de vraiment s'assurer d'avoir le temps puis les collaborateurs pour réaliser un ouvrage de cette qualité-là.
Puis comment on sent quand on a fait comme un tour comme ça de la production, là, ça fait un peu plus de 10 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que vous jetez comme un autre regard sur votre travail,
ben,
de voir comme ça?
Je dirais qu'il y a quelque chose de soulageant parce qu'on a l'impression d'avoir regroupé dans un seul objet l'ensemble de nos réalisations. De dire, bon, ben maintenant, ils vivent, ils sont là, ils sont regroupés ensemble, puis nous... Je dirais qu'on a un peu le sentiment de clore une période de notre carrière, puis d'aller vers le futur finalement, donc de se dire bon ben ça c'est fait, c'est réglé, maintenant on passe à quoi, on va vers où, tu sais. Donc c'est comme une espèce de point, je dirais, où on fait un peu le bilan de cette espèce de course de production des dernières années, puis qu'on se dit bon ben maintenant ça c'est réglé, passons à autre chose.
Est-ce que vous retenez des choses plus spécifiques, ou tu sais, comme dans ce bilan-là, est-ce qu'il y a cette idée, bon, ben, on a exploré telle avenue, par exemple, puis ça, ben, ça nous a mené à un endroit, mais là, on s'en va.
Ben, comment on perçoit, nous autres, on voit vraiment ça comme une démarche progressive, c'est-à-dire que souvent, je me souviens, au début de notre carrière, les gens avaient parfois de la difficulté à avoir la cohérence entre un projet et un autre pour différentes raisons, parce que souvent, les techniques qu'on utilise d'un projet à l'autre sont pas les mêmes, la signature visuelle n'est pas la même, mais l'esprit reste le même. Puis ce que je suis personnellement très satisfait, c'est qu'on le sent en feuilletant les pages du livre, on sent la cohérence du travail malgré les différences au niveau technique, au niveau du rendu, au niveau visuel, au niveau des thèmes abordés. Donc, mais je pense que le futur, je l'entrevois comme un prolongement de ça. Je pense pas qu'il va y avoir de cassure parce que c'est vraiment notre travail, c'est notre façon de voir le monde, c'est notre façon de le présenter aussi. Donc, je pense juste que ça va continuer progressivement à augmenter, disons.
Si je me trompe pas, il y a une œuvre inédite hein, dans le catalogue. Est-ce que ça se peut?
Ben, en fait, c'est le tableau lui-même, là, qui est le tableau qui sort pour la couverture.
Ouais. OK. Parce que sinon, je ne l'avais pas vu, puis moi, ça m'a bien fait rire. J'en parlais avec Jean-Pierre Gay avant l'émission. C'est les lunettes Van Gogh.
Oui, ben ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu pour la simple raison qu'on l'a exposé, mais de façon ponctuelle à chez Armure à Montréal. En fait, on avait décidé de développer un design accompagne une série de montures donc teintées vert absinthe où une des branches, la branche gauche, a été remplacée. En fait, on a travaillé avec un joaillier de Québec qui est Dave Fortin, donc qui a créé qui a reproduit la branche, mais en acier inoxydable, donc hyper tranchant.
Comme une lame de rasoir.
Comme une lame de rasoir. Là, la plupart des techniciens qui ont joué avec ces lunettes-là se sont coupés là,
des
doigts. Ouais, c'est arrivé assez souvent. Donc, c'est ça. C'est une œuvre qui est un peu à côté de notre production, mais qui nous amusait beaucoup pour différentes raisons. Donc, évidemment, par le fait que l'objet perd automatiquement sa fonction. Je veux dire, on ne peut pas porter ces lunettes-là à moins d'être masochiste.
Ben non, c'est ça. En fait, c'est que les lunettes sont censées nous protéger les yeux des rayons, puis c'est finalement, ça, on va se couper l'oreille comme Van Gogh.
Donc, oui, c'est un pan de notre production qui est un peu à côté, où on aime produire des objets comme ça en série qui font un certain clin d'œil à l'histoire de l'art, mais qui aussi sont d'une certaine façon, comme Jean-Pierre me faisait allumer, un peu autobiographique aussi.
Pierre Sazville, où on peut se procurer la monographie?
À Québec, en contactant la Manifestation internationale d'art de Québec. Jusqu'à la fin de la Manif d'art 6, c'est possible de se le procurer à Espace 400e. À Montréal, chez Armure, notre galerie. Sinon, en nous contactant directement là, via notre courriel, là, via notre site web ou encore sur notre page Facebook. Donc, pour l'instant, c'est ça. Là. Dans les prochaines semaines, le réseau de distribution devrait s'agrandir.
Puis, on va sûrement être tenu au courant de ça. Si vous envoyez un communiqué sur l'aérospatiale, on va le mettre sur notre site Internet.
Avec plaisir.
Eh bien, Pierre Sazville, merci beaucoup.
C'est toujours un plaisir.
Donc, moi, je le dis, de quoi que Sazville, aujourd'hui, très belle monographie. Ça vaut la peine de se la procurer, de la feuilleter et surtout de lire sur la démarche de quoi que Sazville. On vient d'entendre un extrait de la pièce « All these wires between us » de Lucky Dragon. C'est tiré de Dark Falcon. C'était une suggestion de Simon Roy. D'ailleurs, vous pouvez trouver les liens pour le téléchargement gratuit sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. On retourne en entrevue. On réécoute l'entrevue au sujet de machination de vidéofemmes. Je suis accompagnée à l'instant par Suzy Genet et Anne-Marie Bouchard, qui sont respectivement coordonnatrices du projet et artistes de Machination, qui est présenté la semaine prochaine par Vidéofemmes. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, merci.
Machination, la semaine prochaine, ça s'en vient, hein?
Très rapidement.
Est-ce que, Anne-Marie Bouchard, je sais que tu présentes une œuvre, est-ce que tu es encore pas mal dans la conception puis dans le...
La conception est finie, là. En fait, il reste l'installation dans l'escalier. Moi, je suis à l'escalier du Faubourg. Alors, on a déjà commencé à placer quelques fils. Puis là, on continue demain toute la journée à installer ça. C'est comme une pré-performance, en fond.
Hein. Donc, tout le travail de dernière minute, là, finalement, qui reste à faire. Suzy Genet, est-ce que c'est possible de parler un peu de la genèse du projet, de l'idée du projet?
Oui. En fait, les artistes de Vidéofemmes a trois axes principaux dans son mandat, qui sont le documentaire, la création au féminin, mais aussi les pratiques installatives contemporaines, narratives. Puis, les artistes de Vidéofemmes voulaient pouvoir faire un projet installatif qui s'intégrerait dans un espace urbain, dans le quartier où se trouve Vidéofemmes, où les artistes vivent beaucoup. Puis, ils avaient aussi envie de s'intégrer à une manifestation artistique, un événement d'envergure. Donc, c'est comme ça qu'on a approché la manif pour faire une activité satellite, finalement, puis on a été acceptés. On voulait aussi profiter de l'idée de la nuit, l'idée du soir, un parcours. Donc, il y a une partie du parcours qui va être animée deux soirées à la fin de la semaine.
Puis, dans le fond, vous êtes vraiment partie de la thématique de la manif là, pour Machination.
Ben, on avait déjà des idées de base, puis quand la thématique a été dévoilée, on a essayé d'arrimer tout ça ensemble là, pour que ce soit cohérent par rapport à la thématique de machine qui était déjà présente, puisqu'on voulait faire quelque chose avec des téléphones intelligents dans le cadre des installations aussi.
D'ailleurs, vous parlez de téléphones intelligents, ça, qu'est-ce qui a amené à vouloir travailler avec ça, justement?
Ben, ça a été amené dans des remue-ménages avec les artistes comme une façon d'intégrer une forme d'interactivité où les visiteurs pourraient utiliser les téléphones de différentes façons pour interagir avec les œuvres qui seraient présentées.
Peut-être on pourrait parler des œuvres un peu pour après aller vers d'autres questions. Anne-Marie Bouchard, toi, tu t'es occupée de l'escalier du Faubourg, donc celui qui est juste à côté de l'ascenseur. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu proposes?
Bien, c'est un parcours ludique, disons. Je me suis inspirée de machines de mise en forme, dans le fond, de Stepmaster, là, qu'on trouve dans les salles de conditionnement physique, mais sauf que le mien, c'est un escalier urbain qui devient un instrument de musique en même temps. Alors, quand on monte, je capte les pas des gens puis qui sont amplifiés et qui vont être entendus, donc qui vont rythmer les séances de mise en forme, dans le fond, dans l'escalier. Le jeu avec le téléphone nous aide à quantifier ou à analyser nos performances de monteur ou descendeur d'escalier. Je me sers aussi des données de l'escalier pour faire un contenu visuel qui va être rendu disponible un peu après, puisque je peux pas avoir mon contenu vraiment avant d'avoir les données escalatoires, disons. Fait que c'est vraiment comme un jeu pour moi aussi, là, en même temps qu'une œuvre de je me sers de l'instrument escalier, disons.
Ça veut dire que moi, si je monte ou je descends l'escalier, j'ai vraiment un impact sur le son et je crée ma propre musique aussi.
C'est ça, sur le son et l'image aussi, puisque les mouvements sont captés par des senseurs et qui vont donner une image à la fin. C'est pas une caméra, c'est vraiment les senseurs que je place dans l'escalier qui vont donner le résultat qui va être visible après.
Puis aussi, pour rendre le tout encore plus interactif, tu vas animer des séances de step workout symphonique.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, je me suis dit que effectivement, dans les salles de conditionnement physique et la mise en forme, il y a un élément de performance, disons. Il y a souvent quelqu'un qui est là pour nous aider à être à notre maximum d'intensité, et où là je vais guider les gens un peu, parce que des fois créer des sons, c'est pas toujours évident. Fait que je vais montrer peut-être lors de ces occasions-là comment on fait avec l'iPod ou téléphone intelligent, puis aussi où se placer pour les sons optimum, disons.
OK. Moi, je pensais que les gens allaient carrément faire une chorégraphie les mains.
Moi, je vais m'organiser pour que ça soit intégré dans une chorégraphie, là. Une chorégraphie, disons, de workout simple, mais joyeuse.
C'est bon, quand même. Ça semble assez ludique. Parallèlement, il y a Geneviève Allard aussi qui présente la machination rue.
Oui, c'est ça. Elle, c'est un parcours déambulatoire qui part du pied de l'escalier d'Almarie.
L'escalier, c'est le point de départ.
Exactement.
Hein?
C'est l'escalier qui est le point de départ, qui ensuite mène à la deuxième machination. La deuxième machination, pendant la semaine, on a accès à des aperçus, en fait, de ce qu'on va voir pendant les deux soirées animées, du parcours animé. Donc, Geneviève, elle, était assez inspirée par l'œuvre de Janet Cardiff, qui a eu à Montréal, entre autres. Elle voulait un parcours où est-ce que le visiteur serait amené à résoudre une énigme ou avoir sa curiosité titillée. Donc, il y a un audio guide, une forme d'audio guide, en fait, avec aussi des séquences vidéo que les gens vont écouter et visionner sur des iPod Touch que nous, on prête des iPod Touch, en fait, aux gens qui n'ont pas de téléphone, mais aussi on suggère aux gens pour le parcours animé d'utiliser les iPod Touch. Ça va être plus simple que leur téléphone intelligent. Donc, on les prête contre permis de conduire ou
carte d'identité reconnue.
Importante. Donc, les gens vont être amenés ils vont être placés dans la situation où ils ont perdu la mémoire, puis ils doivent suivre un parcours, la voie, les guides, pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé, puis ils ont été évoqués sur ce parcours-là, ce qui se passe derrière les murs, derrière les fenêtres qu'ils vont croiser en marchant.
Ah ouais, donc on est vraiment à la fois dans le mystère puis à la fois dans l'évocation poétique.
Ouais, exactement. Donc ça, c'est le concept de Geneviève pour la machination rue.
Puis ensuite, le parcours se termine avec la machination falaise.
Exactement.
De Lily Baillargeon.
Oui, la machination falaise, elle, est présentée seulement les deux dernières soirées. Il y a vraiment, on installe, il y a un écran de projection qui va diffuser une scène intrigante, amener les gens à essayer d'imaginer ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Il va y avoir une installation éclairage et son aussi dans la falaise qui se trouve en bordure de ce stationnement-là. Émilie, elle, était partie de l'idée, en fait, de la nuit. Qu'est-ce que la nuit peut évoquer comme peur ou angoisse ou crime ou la nuit en ville?
Puis, dans le fond, il y a un côté vraiment inquiétant. Là.
Oui,
c'est ça. C'est la soirée
c'est
où on
ça.
Se promène avec quasiment les clés après.
Exactement.
Les doigts,
on suit une progression. On s'amuse. Ensuite, on est curieux. Puis ensuite, on est inquiété et légèrement angoissé.
On passe d'un lieu très passant à un lieu plus sombre et méconnu.
Exactement. Puis c'est pour ça que les deux dernières soirées aussi, on dit que le parcours commence dès 19h. Ça va vraiment être accessible jusqu'à 22h et quelques. C'est le fun de profiter de l'escalier quand il fait encore clair, mais c'est sûr que pour la suite du parcours, c'est bien de venir aussi quand il commence à faire un peu noir.
Puis tout à l'heure, c'est ça, vous disiez, vous prêtez, là, parce que c'est pas tout le monde qui a
oui,
des technologies
exactement.
Intelligentes, donc vous prêtez
oui.
quand même des appareils.
On prête des iPod Touch, puis on a un partenariat avec Zap Québec qui nous permet d'avoir des points Wi-Fi sur ce parcours-là, donc comme ça, les gens peuvent utiliser les iPods qu'on prête pour avoir accès, même s'ils n'ont pas eux-mêmes un appareil mobile.
Vous parliez d'interaction, bon, on en parle là, de cette interaction-là, mais il y a une autre forme d'interaction aussi parce que vous avez fait un site internet, en
oui.
fait un blog, c'est
oui.
sur le site machinationurbaine.wordpress.com
oui.
où là vous invitez les gens à venir écrire ou à raconter des histoires qu'ils ont sur le quartier.
Oui, c'est ça. On voulait vraiment que les gens puissent, comme c'est un projet interactif, on voulait que les gens se sentent concernés puis commencent déjà à avoir une interaction avec nous, avec les artistes pendant le processus de création. Donc dès qu'on a lancé là, la création comme telle au début en septembre, en fait, on a animé le WordPress, puis on a un groupe Facebook aussi. Où c'est sûr qu'on n'a pas révélé beaucoup de contenu parce qu'on voulait garder le punch, puis pas que tout soit pas mis sur la table avant, mais on a eu quand même un petit peu d'interaction.
Oui, c'est ça. Bien, en même temps, ça servait de journal de création. Alors, si on veut suivre la genèse du projet un peu, bien, on peut suivre au fil du blog, dans le fond, les photos que j'ai prises de l'escalier, par exemple, pendant toute l'année, depuis septembre jusqu'à cet été. Là, c'est sûr que depuis un mois, j'ai eu moins le temps de bloguer, mais ça va revenir cette semaine. Là, je vais tenir au courant du passage et de la circulation dans l'escalier.
Ah ouais, mais c'est important pour toi. Hein? Plus précisément, ça semblait important de documenter comme tout le processus, la réflexion aussi.
Oui, ben pour moi, je trouve fascinant de suivre le processus de l'œuvre en même temps que l'œuvre se crée. Puis je trouve que ça fait des documents qui peuvent être intéressants puis qui nourrissent l'œuvre et la réception de l'œuvre autant.
Oui, puis ça prépare aussi, ça donne envie de voir le résultat final.
On espère.
Oui,
mais
c'est
là,
ça.
Vous devez avoir hâte, là, quand même.
Ben oui.
Que ça...
C'est ça. Est-ce que j'ai le droit de parler qu'on va avoir des prix à gagner pour
bien
les
sûr.
Monteurs d'escaliers?
Oui. Ah
ouais,
explique l'application.
C'est parce que.
L'application web mobile est faite par AppGeek Technologies, puis principalement dans l'escalier, il y a quelque chose de rigolo. Hein.
Oui, c'est ça. Ben comme on tient le temps, dans le fond, de monter ou de descendre de l'escalier, à chaque passage, on a une statistique qui vous dit si vous êtes où vous vous situez par rapport aux autres monteurs et descendeurs. Puis il y aura des prix pour le plus rapide, pour le plus lent, pour le plus fréquent utilisateur d'escalier. Donc il y a des films de Vidéofam à gagner et puis aussi un iPod Touch.
Ah ouais, donc
le
là,
grand
vraiment,
gagnant.
Là,
le grand gagnant.
On a un incitatif majeur à aller...
Il faut donc utiliser beaucoup l'escalier.
Et donc, Machination, le parcours sera présenté à partir du 28 mai. Ça,
oui,
ça donne...
Oui, c'est ça.
C'est lundi.
À partir de lundi,
ben oui.
on présente le parcours libre, donc l'escalier plus les avant-goûts, les aperçus du parcours animé. Tous les jours, il va y avoir quelqu'un sur place à partir de 11h le matin pour expliquer aux gens, parce que c'est un lieu de passage aussi, fait qu'on voulait
oui.
qu'il y ait le plus possible quelqu'un. Donc, de 11h à 19h à 20h, en fait, tous les jours, dans la mesure où il fait un temps raisonnable
oui,
météorologiquement. Puis
dans
vendredi,
la mesure où on va avoir envie de monter et descendre les escaliers.
C'est puis
ça.
Vendredi, samedi, c'est les deux soirées du parcours animé où là, à partir de 19h, c'est le parcours animé complet. En cas de très mauvais temps, l'un des deux soirs, il y a une remise au lendemain qui est le 3, le dimanche. Puis les step workouts, c'est, il y en a un le matin du vendredi aussi pour les gens qui circulent vers le travail, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
Puis il y en a un en fin de journée pour le retour au travail entre 16h et 17h30. Puis après, c'est durant le parcours animé.
Oui, c'est ça. Donc le 2 juin à 19h. Ouais. Si on veut plus d'informations, comme je disais, on peut aller sur le site machinationurbaine.wordpress.com.
Oui, on peut aller aussi sur le groupe Facebook qui s'appelle tout simplement Machination, puis on peut m'écrire à Vidéofemme, m'appeler à Vidéofemme, m'envoyer des signaux de fumée à Vidéofemme.
Wow, ouais, t'es vraiment polyvalente là, sur les divers degrés de technologie de communication.
On peut texter aussi.
Suzy Genet, Anne-Marie Bouchard, merci beaucoup.
Merci beaucoup
à vous.
C'était un dernier extrait de l'album Dark Falcon de Lucky Dragons. On vient d'entendre la pièce Mercy. Je le répète encore, si vous voulez les liens pour le téléchargement gratuit ou encore pour réécouter ou consulter, en fait, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier, c'est l'aérospatiale.wordpress.com. L'émission tire déjà à sa fin. C'est d'ailleurs la dernière émission de la saison 2011-2012 de l'aérospatiale. Ça m'a fait un grand plaisir d'être avec vous cette année. Je remercie mes collaborateurs Raymond Poirier, Simon Roy, Dominique Savoy, Fanny Hénon-Lévy, Anouk Deloge et Catherine Boivin. Je remercie également Jean-Pierre Gué qui a été quand même parfois en coulisses et qui nous collabore aussi à la manif en direct. Donc, je vous souhaite un très, très bel été. Puis, je vous laisse avec Gilles Chaumel et son émission Folk d'Amérique. Donc, bonne soirée sur les ondes de CKRL.